Mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'être venus pour cette avant-dernière séance donc, de la première session des cours que je donne sur la thématique de repenser les formes. Aujourd'hui, donc, je vais partager le cours, enfin disons pas le cours, mais en fait, je vais partager la session puisqu'il y a un cours et un séminaire avec Mathieu Langer, qui est un astrophysicien. Et on a choisi comme thème l'émergence. Alors, au début, j'avais mis l'émergence des formes, mais ça va être l'émergence des motifs. Mais le motif étant une forme, on peut jouer sur l'ambiguïté des termes. Et donc, moi, je vais vous présenter quelques généralités, parce que quand on parle des motifs et des formes, enfin, même des motifs en musique, c'est un champ presque infini. Donc je vais montrer quelques généralités et quelques curiosités. Et Mathieu Langer va donc poursuivre pendant le séminaire où il va parler des formes dans la nature. Mais Mathieu Langer étant astrophysicien, j'ai cru comprendre qu'il n'a pas pu se limiter aux formes juste qu'on trouve sur les pelures des animaux, mais il va aussi nous parler de formes beaucoup plus grandes qu'on trouve dans l'espace spatio-temporel. Donc bon voyage. Donc, je vais commencer à parler de la perception des formes, et puis plus que la perception, de la manière dont les formes irriguent le discours musical. Et alors, c'est une notion qui est assez ancienne, puisque j'en avais parlé dès ma leçon d'introduction. On peut faire remonter cette notion-là au ce qu'on appelait du temps du Moyen-Âge, enfin du temps du chant grégorien, les neumes, qui étaient des formes mélodiques et qui étaient reconnaissables par leur mouvement montant, descendant ou au contraire statique, et qui étaient répertoriés, qui avaient des noms bien particuliers et qui ont poursuivi leur histoire tout au long de la musique occidentale jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr. Et alors, c'est un champ qui est très vaste et j'ai voulu évidemment me concentrer sur quelques points saillants. Et il y a une œuvre particulièrement sur laquelle je vais commencer qui est emblématique parce que c'est une œuvre de Beethoven qui est emblématique parce que justement il est parti d'un élément qui paraît très simple. Et qui est très reconnaissable, c'est une valse, donc cette œuvre, c'est ce qu'on appelle en français les variations d'Abelli, et le véritable titre, c'est Veränderungen über eine Walze von Anton Diabelli, donc 33 transformations, on peut dire, sur une valse de Diabelli, donc sur lesquelles, pour la petite histoire, Diabelli était un éditeur et aussi compositeur mineur, et il avait donné à plusieurs compositeurs l'idée de composer des variations sur sa valse. Et des compositeurs aussi célèbres que Schubert, Franz Liszt qui avait 11 ans, Mozart fils, et puis des compositeurs qui sont un peu plus méconnus aujourd'hui, comme Moscheles par exemple, ont composé. Et quand il a demandé à Beethoven combien vous avez eu de compositeurs qui ont répondu à cette demande, et Diabelli a dit 32. Il dit, bon, écoutez, moi, j'y ferai 33 variations, j'en ferai une de plus. Et ces variations, donc, ça paraît comme ça une plaisanterie, mais les meilleures plaisanteries ne sont pas les plus courtes, comme on sait, et celle-ci est extrêmement développée, et c'est ce qu'on va essayer de voir, c'est la manière, justement, dont les variations ne ressemblent pas au motif initial, donc on va vraiment parler de motif, mais on va voir comment il y est, donc de manière cachée, de manière subliminale. Alors comme il y a 33 variations, j'étais obligé de faire aussi un choix, donc j'en ai pris une par hasard, c'est la variation 30, qui est drôle comme ça. Je vous propose qu'on commence par écouter le thème lui-même qui ouvre donc cette série des variations Diabelli. Je n'ai pas mis les reprises, parce qu'on reprend deux fois chaque motif, mais je n'ai pas mis le registre pour des questions de temps. Et donc, la variation que j'ai choisie, c'est celle-ci, qui est une des plus énigmatiques. En tout cas, c'est une des plus éloignées du schéma original et même de l'expression originale. Puisque maintenant que vous avez un peu dans l'oreille cette valse qu'on vient d'entendre, voici ce que donne cette variation. Ces motifs se ressemblent-ils ? À première vue, on pourrait dire non, puisque, évidemment, d'un point de vue même de l'expression, ils sont très éloignés l'un de l'autre, et même du point de vue du contenu mélodique, des mouvements mélodiques dont je parlais tout à l'heure, ils n'ont pas grand-chose à voir, hein, on peut juste réécouter le début. Voici cette variation. Et je vous rappelle le thème initial. Donc, très éloigné. Ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que cette variation annonce de manière très, très prémonitoire la musique de Robert Schumann, hein, parce que c'est vraiment ce canon qu'il fait en mineur. Vraiment, c'est des choses qu'on trouvera beaucoup dans la musique de piano de Schumann, qu'on trouve donc déjà chez Beethoven. Et donc on va essayer de voir en quoi ces deux éléments sont finalement associés de manière classique. Alors, si on y regarde de près, est-ce qu'il y a une parenté entre le début de chaque motif, ce qu'on appelle l'anacrouse ? Pas vraiment, parce que voici, voilà le premier, et puis voilà ce qu'il en fait ensuite. Bon, c'est vrai que les deux motifs commencent un petit peu enlevés comme ça, sur un temps faible, et par ce mouvement qui n'est pas exactement le même, mais on ne peut pas voir vraiment de parenté. Par contre, si on prend un peu plus de distance, alors on va percevoir quelque chose qui, au niveau de la forme, est plus clair, c'est-à-dire qu'on va percevoir une symétrie. Et on va beaucoup parler de symétrie dans ce cours, et même je crois dans le séminaire après. C'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a des choses qui se répondent. Alors il y a des symétries très régulières et des symétries plus ou moins irrégulières. La symétrie de la valse est très régulière, puisque vous allez entendre que le même dessin, exactement le même dessin, va être reproduit, pas avec les mêmes notes, pas avec les mêmes harmonies, mais on peut retrouver exactement le même dessin qui est reproduit deux fois, donc il y a une symétrie parfaite. Première fois. Voilà. Par contre, pour la variation, on retrouve cette même volonté symétrique, c'est-à-dire qu'on va avoir ce même découpage en deux parties, mais ça ne va pas être de manière aussi régulière, c'est-à-dire qu'il ne va pas juste transposer, il va réécrire la deuxième partie avec toujours cette même volonté de rappeler la première partie, mais déjà dans une tonalité beaucoup plus éloignée et avec un dessin qui n'est pas du tout construit de la même manière, puisque autant dans le thème, il a suffi de retransposer juste toutes les parties mélodiques. Ici, ça va être un petit peu plus complexe puisque l'agencement des voix va être un petit peu différent et vous allez entendre qu'on ne tombe pas dans une répétition totale. Donc c'est une symétrie qui est un petit peu déviée. Deuxième fois. Voilà. Donc on retrouve un élément déjà du thème, mais vraiment au niveau de la symétrie. Vous voyez, c'est comme si vous êtes vous voyez un paysage lointain, et puis vous voyez à certains moments des montagnes. Alors de loin, les deux montagnes se ressemblent puisqu'elles émergent d'un horizon, mais plus vous allez vous approcher, plus vous allez vous apercevoir que ces montagnes, finalement, ne sont pas exactement les mêmes et qu'elles ont des configurations différentes. C'est un petit peu ce qui se passe ici. Hein, on retrouve vraiment de loin quelque chose qui se ressemble, mais qui n'est pas exactement. Alors, ensuite, ce motif va faire place à un autre élément qui est un tournoiement sur place, c'est-à-dire qu'un petit motif va se répéter en tournoyant et en se répétant. Et là aussi, on va trouver que finalement l'idée de Beethoven, quand il a composé ses transformations, qu'il n'appelle pas sa variation, finalement, on pourrait d'une certaine manière la résumer en disant que finalement, il prend de la distance avec son objet et il va garder les contours généraux, c'est-à-dire qu'on va retrouver les contours généraux. Mais plus on s'approche, plus finalement on va aller vers de la divergence et moins on va aller vers une ressemblance. Donc le motif ici fait un peu place à une forme un peu générale et vous allez voir comment c'est fait. Donc dans la première partie, dans la valse, on aura un dessin assez simple qui va se répéter comme un tournoiement. Où là, c'était évidemment quelque chose qui se répète un peu mécaniquement, et on voit exactement le même motif, pour le coup, ici, qui se répète. Hein, on peut juste le réécouter, mais faites bien attention au motif lui-même. Et la manière dont Beethoven va le retraiter va être la suivante, c'est-à-dire qu'on va retrouver cette idée de tournoiement sur place, une musique qui ne va nulle part, qui n'est pas orientée d'une certaine manière, mais qui va tournoyer comme des choses qui vont qui se croisent, et qui va finalement, à la fin, aboutir à une résolution. Mais vous allez voir, ça va être un tournoiement déjà beaucoup plus lent, et puis un tournement beaucoup plus tortueux que celui de la valse, puisqu'on va voir aussi que ce tournoiement va cacher une forme secrète, que je vais vous révéler, bien sûr. Donc on a eu ce tournoiement. Alors, quelle est cette forme secrète? C'est qu'il va faire intervenir dans une voix interne, puisque là, dans cette variation, on est vraiment dans une musique polyphonique, ce qui n'était pas le cas de la valse. Il va y avoir une voix interne que j'ai notée en rouge, mais que vous allez entendre parce que le pianiste, qui est le grand pianiste russe Grigory Sokolov, l'a fait volontairement entendre, et à juste raison, à mon avis, puisque... ça va nous révéler quelque chose. On va réécouter juste ce petit passage. Alors, maintenant, si vous voulez savoir qu'est-ce qui est caché, ça peut-être vous mettra sur la piste. Alors pour avoir ça, je me suis permis plusieurs dans cette conférence, des petits bidouillages sonores, c'est-à-dire que j'ai pris l'enregistrement et je l'ai ralenti, je l'ai transposé et je l'ai ralenti de manière à le faire coïncider, c'est-à-dire qu'au début vous entendez l'original du thème et ensuite c'est ralenti encore, est transposé. Et maintenant, la variation. Donc on voit que ce motif du tournoiement, autant on a le tournoiement qui reste, je dirais, la partie principale, c'est ce qui va nous guider, et au début, on se dit, il se fiche totalement du motif lui-même. Non, le motif, il intervient par-dessous, par cette voie intermédiaire qui se glisse entre les deux. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que, toujours maintenant, on va prendre encore de la distance. Comment est-ce qu'on peut caractériser quelque chose qui est très, très pratique et puis très fort pour la musique? C'est ce qu'on appelle les profils, c'est-à-dire, comme je parlais des neumes tout à l'heure, est-ce que ça monte, est-ce que ça descend ou est-ce que ça reste sur place? Il n'y a pas 36 solutions, il y en a 3, ou ça monte, ou ça reste sur place, ou ça descend. Et donc, on a ici juste une petite chose où on va voir que le premier motif de la valse, enfin le début, est plutôt statique, je dirais, c'est-à-dire qu'on a cette basse qui est tout à fait traditionnelle, mais c'est un motif qui a plutôt tendance à aller, enfin, dans sa résolution, vers la descente. Voilà. Tandis que la reprise du motif dans la seconde partie aura plutôt tendance à monter. Voilà, une tendance plutôt descendante, plutôt ascendante, chose que Beethoven va, alors lui, grandement accentuer, c'est qu'on va avoir cette chose qui faisait assez souvent, qui se faisait souvent à l'époque, c'est-à-dire qu'on va avoir des motifs qui vont descendre, chaque motif descend, mais comme c'est fugué, comme il y a des canons, la deuxième voie va être plus haut, la troisième voie va être plus haut, la quatrième voie va être plus haut. Donc on va avoir comme ça, quelque chose qui va se monter en étage, mais tout en descendant, comme une chose un petit peu contradictoire. Mais le profil général, même si les voix vont de plus en plus hautes, le profil général va être vraiment que tout descend dans le grave. Alors que dans la deuxième partie, qui était plutôt montante, eh bien, on va voir le contraire, c'est-à-dire que là, ça va toujours partir du grave et les voix vont aller vers de plus en plus aiguës, mais chaque voix elle-même va avoir tendance à monter. Alors, autre détail assez curieux, et celui-là, il peut faire couler pas mal d'encre, c'est la manière dont Beethoven va résoudre aussi cet autre problème, c'est le problème du motif tournoiement, en tournoiement qu'on trouve à la fin, qui est le même. Et qui devient ceci ? Alors ici, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une transformation, c'est-à-dire qu'il va enlever une note. Alors, qu'est-ce qu'il va enlever une note? On a le motif principal qui est ici, où on a deux notes qui sont assez rapprochées et une note qui monte. Donc on a un motif avec trois éléments. Il supprime carrément celle du milieu. Et on a juste un motif montant. Voici ce que ça donne. Et en ralentissant. Et là, on a le motif de la variation. C'est encore plus criant, c'est qu'ensuite, il va faire la même chose dans la deuxième partie de ce motif, qui est celle-ci. Voilà. Là, on est écouté la variation et l'original, ça, c'est quand même assez éloigné. Alors, ce qui se passe, c'est que il va créer des symétries. Il va créer des symétries, c'est une pièce qui marche avec deux systèmes. Il va créer des symétries, et ces symétries vont être inversées. Une fois, elles sont à la main gauche, une fois, elles sont à la main droite. C'est-à-dire qu'ici, on a un mouvement, alors qui est tout à fait caractéristique, on a un motif qui est basé sur quelque chose qui n'est pas du tout dans le thème lui-même, qui est un motif en ligne brisée, c'est-à-dire que quand on a une note qui monte, l'autre descend, ça monte et ça descend, et ça passe d'abord de la main gauche, et ensuite ça passe à la main droite, c'est-à-dire que ça passe d'abord des graves, et ensuite ça va passer à la main droite, voilà ce que ça donne, juste ce motif. Et ensuite en haut. Et le complément, c'est-à-dire ce qui est joué en même temps que ces motifs, voilà, ça va donner ce qui aurait été, alors je vais reconstituer, ce qui aurait été la véritable version s'il y avait eu une véritable symétrie. Et maintenant ? Et là, on reconnaît bien le motif. Or, ce n'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est ça. Alors, pourquoi il a fait ça ? Il a fait ça pour une bonne raison, et il s'est même permis ce qu'il faisait de temps en temps, c'était des fautes d'écriture. On trouve chez Beethoven des fautes d'écriture volontaires, alors qu'il n'était pas là pour... Il ne faisait pas ça pour épater le bourgeois, comme on dit. Il faisait ça parce qu'il cherchait autre chose. Il cherchait autre chose et il cherchait à créer des relations qui n'étaient pas incluses dans le système sur lequel il composait, mais qui voulait imposer à la musique. Et ces fautes d'écriture, alors je ne veux pas vous rentrer, mais pour les gens qui ont fait un petit peu d'harmonie, ça s'explique de la manière suivante, c'est qu'on a ici des sensibles qui ne se résolvent pas sur les toniques. En général, en musique tonale, la sensible se résout sur une tonique. Et là, elle se résolve sur une autre, c'est-à-dire que la résolution est omise. Et donc, s'il avait résolu la sensible sur la tonique, on aurait eu ce motif de trois notes. Mais comme on n'a pas la deuxième note, finalement, ce qu'il enlève, c'est la tonique. C'est la tonique, donc on a une sensible qui se résout sur une autre note. Alors, ça pourrait être juste une incongruité ou quelque chose. On va voir que là aussi, il y a encore quelque chose qui est très caché, c'est que vous allez voir que cette non-résolution va ramener à quelque chose du motif que vous connaissez déjà. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire référence au motif qu'il est en train de transposer, de varier. Il va faire référence à un autre motif de la même, du thème, mais qui se situe à un autre mouvement. Donc le niveau de variation est à plusieurs étages. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire écouter, alors toujours avec des petites transformations que j'ai faites, des petits bidouillages, mais qui permettent de, par l'oreille, vous allez reconnaître, je pense, la raison de cette élision, donc ce motif de trois sons qui devient motif de deux sons, et pourquoi, vous allez l'écouter. Reconnu cette marche de basse qui était là, qui était quand même cachée dessous, mais qui, par justement ce changement de symétrie et cette déformation du motif, a fait référence à cette autre partie du motif. Alors, autre élément, dans une autre œuvre de Beethoven, qui m'a aussi toujours attiré mon attention, c'est ce qu'on appelle un morphing. Un morphing, tout le monde sait ce que c'est, même si vous ne voulez pas. Vous en avez plein sur vos écrans de télévision quand vous regardez, ou sur vos écrans d'ordinateur. Ce sont des formes qui n'arrêtent pas de se mouvoir les unes dans les autres. C'est-à-dire un triangle qui se transforme dans un carré qui se transforme dans un rond, et comme ça, des motifs qui n'arrêtent pas de se... de se mélanger. Et il se trouve que Beethoven en a écrit beaucoup. J'en connais plusieurs, ça, c'est un des plus, les plus intéressants. Je vous explique ce qui va se passer, c'est qu'on a, c'est une sonate, on a le début de cette sonate, et ensuite, on va avoir un développement qui va se terminer par une série de variations. Et ces variations vont être très très loin du motif original de sonate, mais par des petites transformations, des petits glissements, des petites transformations d'une forme en une autre, d'un motif en une autre, on va amener subrepticement et de manière presque subliminalement, on va ramener le motif principal. C'est-à-dire qu'il est, il va être vraiment tellement caché dans la forme variée et petit à petit, ça va se transformer et ça va ramener la forme principale. Alors le motif lui-même, c'est celui-là. Et il est très affirmé, donc il est très facilement mémorisable. Alors voilà ce que ça va donner. Le thème principal, on pourrait mettre un petit peu plus fort, je pense, s'il vous plaît, la diffusion. Voilà ce que ça va donner. Le motif principal va arriver, et, il va arriver de manière cachée, et il va être totalement caché dans ces tournoiements, là encore des tournoiements, des passages de virtuosité, et qui vont petit à petit se ralentir, et qui vont petit à petit donner naissance à quelque chose. Alors, là, je vous le montre juste sur la partition. On va l'écouter d'abord. Si on le ramène au niveau de motif, ça se passe de la manière suivante. Comment est-ce que ça va ? Voilà. Vous avez ces petites formes qui tournoient ici. Voilà, ça descend, ça monte et ça descend. Et maintenant, il enlève cette partie qui monte et il ne reproduit que la forme qui descend. Vous avez ce motif de quatre notes qui descendent, qui descendent. Maintenant, il est ralenti. Et il les ralentit et il les joue plus bas et plus haut, c'est-à-dire qu'il les transpose. Mais, par exemple, ici, il fait débuter ce motif-là à la fin de celui-ci. Et ici, il les rapproche. Il fait débuter ce motif-là au milieu de celui-ci. Il reprend cette même idée, il la retranspose et il la ralentit encore. Mais cette fois-ci, il fait débuter, donc on a toujours ce motif de trois sons, alors des fois c'est quatre, des fois c'est trois. Là, il y a un motif de trois sons qui descend, et cette fois-ci, il fait intervenir la même chose, le motif, mais en quinconce, c'est-à-dire elles ne sont jamais synchronisées, c'est-à-dire ce n'est pas une note qui arrive en même temps qu'une autre note, mais une note qui arrive au milieu de deux autres notes. Et il garde cette chose-là. Ensuite, il contracte ces deux éléments, et il fait comme ça, il réduit, il les transpose, et il a le thème principal. Alors voilà, je vous ai décrit, je vous propose qu'on réécoute juste la fin pour que je vous le montre en même temps que ça joue, si j'y arrive. Comme je ne suis pas gaucher, ce n'est pas évident. Je suis très maladroit pour d'autres choses, mais pour ça particulièrement. Donc, on a comme ça aussi ce motif qui est par morphing, donc, qui produit une forme très lointaine et qui qui aboutit au motif principal. Ce qui est intéressant quand j'ai une forme tournantienne, c'est que c'est une forme dans ses variations qui nous paraît tout à fait classique et tout à fait banale. Et c'est ça que Beethoven faisait très souvent, c'est-à-dire qu'il prenait des éléments de l'histoire qui faisait partie de l'histoire de la musique, qui était très classique, mais il en tirait autre chose que les autres compositeurs de son temps, c'est-à-dire qu'il développait des éléments morphologiques qui étaient à l'intérieur, mais que personne n'avait remarqué. Et donc, il en faisait un traitement semblable. Alors, s'il y a un terme qui est à la mode en ce moment, c'est le terme d'émergence. On parle beaucoup des émergences, l'émergence des formes, tout ça. S'il y a quelqu'un qui a réussi à faire émerger quelque chose, c'est Debussy. Ou a donné l'idée d'émergence, c'est Debussy. Et j'ai choisi comme second exemple un extrait de La Mer, le début de La Mer, alors qui a cette double fonction. Ça a une fonction poétique, c'est-à-dire que ça s'appelle De l'aube à midi sur la mer, et cette introduction est censée nous suggérer la mer vraiment qui est à l'état de repos, et qui petit à petit va s'agiter pour donner naissance à quelque chose de beaucoup plus profondé. Bon, tout le monde le connaît, mais je veux dire, ça fait pas de mal de le réécouter quand même. Et le morceau commence maintenant. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que là, il y a aussi quelque chose de crypté et de caché, parce que c'est, si on analyse dans le détail, c'est presque une chaîne sans fin qu'on va découvrir. C'est que tout, absolument tout, est dérivé d'une petite cellule, qui est celle-ci, et que tous les motifs qu'on va retrouver plus tard vont être dérivés de ce motif qui est donc en germe dans cette introduction. C'est-à-dire, comme j'avais dit, il y a cette double fonction poétique, c'est-à-dire de montrer quelque chose qui va se constituer, mais c'est aussi une fonction structurelle puisque les choses se constituent réellement comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas juste par l'oreille qu'on entend qu'on a une forme musicale qui va petit à petit se construire, c'est que c'est vraiment dans la construction elle-même. C'est-à-dire que si on regarde vraiment les motifs, comme je vais vous le montrer, il y a un découlement permanent de ça. Donc on va réécouter le début de cette introduction, et j'ai resubligné au piano juste les notes qui appartiennent à ce motif et qu'on va entendre. Alors ensuite, tous les motifs vont être déduit de ça, et je vais juste vous les faire entendre, et vous allez entendre que les motifs sont totalement différents, mais on retrouve toujours, les thèmes, je devrais dire plutôt, sont totalement différents, mais on retrouve toujours la même cellule de motifs qui est vraiment une cellule initiale, et comme je dis, plus on avance dans l'œuvre, plus on s'aperçoit que tout est relié. Vous savez, Debussy a toujours eu l'image d'un musicien, on disait qu'il était impressionniste, on disait qu'il était évidemment intuitif, ce qui n'est pas faux, sans intuition il n'y a pas de musique, mais on le voyait comme un musicien qui était plutôt un improvisateur qui écrivait sans règles. Depuis quelques années, on sait que c'est absolument faux, on sait qu'au contraire, c'est un des plus grands constructeurs de formes qui existent, ce qui n'est pas du tout un problème pour faire une musique hautement poétique. Ensuite, un autre thème assez célèbre qu'on appelle le thème acoustique. Et ensuite un commentaire. Ensuite, on a des arabesques. Ensuite, le célèbre thème des violoncelles. Pour terminer, le thème qui termine ce mouvement, qu'on appelle le thème de midi. Donc, on a vraiment toujours cette même matière tout le temps. Alors, quand on écoute cette musique de Debussy, surtout la mer, on s'aperçoit que, là, c'est un découpage, il y a une introduction, puis il y a trois parties assez claires à l'audition, et on se dit, il y a trois parties, et puis tout ça, ça forme un grand crescendo, puisque cette musique est censée donner vraiment une idée d'une progression. Alors ça, c'est comme quand je vous parlais de tout à l'heure, plus on s'approche d'une montagne, plus on en voit les détails. Voilà à quoi ressemble le découpage formel de cette œuvre. J'ai voulu juste le montrer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour vous donner un exemple de la complexité formelle de cette œuvre, c'est-à-dire que vous voyez, il y a énormément de symétrie, de petites symétries, de motifs qui se trouvent placés entre deux motifs qui sont les mêmes aux extrêmes. C'est rempli de petites symétries, et ce qui est d'autant plus extraordinaire chez Debussy, c'est qu'évidemment, comme on le sait, c'est une forme qui n'existait pas avant qu'il l'ait inventée lui-même. C'est-à-dire que Debussy a inventé ses propres formes. C'est le premier compositeur de l'histoire de la musique qui a composé sans modèle formel préétabli. Tout sortait de son imagination et de son pouvoir de déduction. Et donc, c'est une forme totalement nouvelle, enfin pour l'époque, et qui est remplie de ces petits détails, hein, et qu'on peut encore découper encore en plus grande. Vous voyez que je m'étais amusé à relever tous les rappels de motifs qui interviennent à un moment ou l'autre de l'œuvre. Hein, donc c'est une structure vraiment très complexe. Alors on va passer maintenant à un autre compositeur, et j'ai voulu juste en introduction vous faire lire ce texte, petite phrase, de Wittgenstein, qui me paraît totalement décrire l'univers de ce compositeur. Ce compositeur, c'est Anton Webern. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai choisi aussi. Hein, c'était parce que, comme Wittgenstein l'explique dans ce texte, que je vous laisse le temps de lire, comme il l'explique, chez Webern, on va faire des choses qui ne... Enfin, il a une conception dans laquelle la musique va se réduire au minimum de choses. C'est-à-dire que, contrairement à la musique qui précédait, post-romantique, de Mahler et de Strauss, qui était plutôt dans la prolifération, Webern va réduire et va, comme dit Wittgenstein ici, mettre sa volonté à appréhender toujours la même chose. Alors, j'ai choisi comme passage une œuvre aussi qui est assez emblématique, c'est les variations pour piano, parce qu'on se dit que voilà, c'est des variations, mais il n'y a pas de thème, il n'y a pas de motif. Alors, quand on l'écoute, on dit qu'il n'y a pas de motif, et quand on la regarde un peu plus proche, on se dit qu'il n'y a pas de motif parce qu'il n'y a que des variations. Toutes les variations, on n'arrive jamais à reconnaître quel est l'élément original, quel est l'élément originel de cette œuvre. On va écouter juste la première phrase, le début. Alors, c'est une musique déjà beaucoup plus abstraite, mais qui ne manque pas de pouvoir expressif, selon moi non plus, et qui est basée alors sur quelque chose qui est très simple, c'est-à-dire qu'il y a une structure de base qui est, que je vais vous montrer peut-être ici, voilà, qui est celle-ci. Vous avez un motif qui est, vous avez deux sons d'un côté, un son de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plus simple. Vous avez deux sons plus un son. Et ensuite, quand il va les imbriquer, voilà, on a ce motif-là, deux sons plus un son, deux sons plus un son. Et quand il va les imbriquer, ça va donner ça. C'est-à-dire que tout ce qui est en rouge, c'est les motifs avec deux sons plus un son. Et à l'intérieur, c'est le contraire, un son plus deux sons, ce qui est en vert. Et on voit qu'on a un motif qui se trouve à l'intérieur, qui se trouve imbriqué l'un dans l'autre. Et ce qui est à la main droite, ici, passe à la main gauche ensuite. Et donc, on a comme ça pratiquement toutes les possibilités de motifs qui sont imbriqués, où, par exemple, le même motif se suit lui-même, où, voilà, ici, on a le motif rouge, le motif bleu, le motif vert. Le motif bleu, c'est trois sons plus un son. Ici, vous voyez qu'ils sont imbriqués d'une manière totalement différente, en quinconce, et ici, encore d'une manière totalement différente. Et si on fait la somme de tout ça, on a à peu près toutes les possibilités d'organisation à partir de ces motifs, c'est ce que j'ai montré ici. Alors, tout ça, ce serait bien beau si ça pourrait être une expérience totalement comptable. Or, il se trouve que dans cette vision, Webern est évidemment un compositeur, c'était pas un logicien, ni juste un comptable, comme on reprochait beaucoup aux musiciens de cette époque-là. C'est-à-dire qu'il va jouer sur des niveaux de symétrie. Alors, qu'est-ce que ce sera le niveau de symétrie? C'est-à-dire que dans la première phrase, vous allez, ça on l'entend très bien, vous allez voir que la musique de la fin revient à celle du début. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle un miroir au milieu, qui va refléter les mêmes sons. C'est-à-dire que la musique avance et arrive à un miroir, et le miroir va redonner les mêmes sons du début à la fin. Et on entend ça très bien dans ce petit cours. Miroir. Voilà. Ensuite, seconde phrase, on retombe sur un miroir, mais qui est presque parfait, pas tout à fait, parce qu'il y a un petit élément au début, c'est qu'ici, on se trouve à un motif de trois sons, et ici, avec un motif de quatre sons. Donc, on a une petite irrégularité, mais vous allez entendre qu'on entend bien que la pièce... c'est comme si on remontait le temps, c'est-à-dire que la musique revient en arrière. Et maintenant, Dans la troisième phrase, alors ce qui est intéressant, c'est la troisième phrase reprend exactement le même matériau musical que la première. Alors, si on regarde toutes les notes, je ne vais pas faire le comptage, mais c'est exactement la même chose. Il y a des raisons pour ça, mais bon, c'est peut-être trop long à expliquer. Mais cette fois-ci, il va y avoir une symétrie, c'est-à-dire qu'ici, on entendait bien que c'était les mêmes sons qui revenaient, mais ici, vous allez voir que la musique part de l'aigu et arrive vers le grave. Donc, on a comme ça une symétrie qui est brisée parce que elle part d'une région aiguë, disons plus aiguë, et elle termine dans une région plus grave. Et donc, on n'a plus cette même symétrie qui fait qu'on entend exactement les mêmes sons au début et à la fin. Et puis, cette fois-ci, on retombe sur une symétrie, mais cette fois-ci qui est interrompue parce qu'il intègre un silence au début. Mais sinon, on retombe sur une symétrie pas temporelle, mais vraiment de son. À chaque fois, on entend les sons du début à la fin. Alors, c'est intéressant puisque dans ce type de variation, on a donc une variation de figure à figure, c'est-à-dire on a vu que c'est deux sons et un son à l'intérieur duquel il y a un son et deux sons. Et ensuite, ce qui se passe à la main droite, ça se passe à la main gauche. Donc on a une symétrie de figure à figure, mais on a une symétrie de figure, de groupe de figure à groupe de figure. On a un troisième niveau, c'est parce que comme on a cet effet de miroir, le troisième niveau, c'est qu'on a une symétrie entre la première partie et la deuxième partie, puisque c'est la même chose mais à l'envers. Donc on a un troisième niveau de symétrie. On en a un quatrième, comme je vous l'ai dit, puisque dans la première phrase, on retrouve les mêmes éléments que dans la deuxième, mais ça part de l'aigu et ça va vers le grave. Donc on a un nouveau quatrième niveau de variation, toujours avec une forme symétrique, mais qui est détruite. Et on en a un cinquième niveau, puisque la même chose se passe entre la phrase 2 et la phrase 4, mais il introduit un silence au milieu. Donc on retrouve toujours un rappel entre phrase 1 et phrase 3, un miroir, si vous voulez, un souvenir, et entre phrase 2 et phrase 4, un autre souvenir. Et on a un sixième niveau, puisque finalement, la première partie est variée dans la seconde partie. Donc vous voyez que plus on avance, plus on a vraiment une symétrie qui se bouscule. Alors, j'ai étudié ces phénomènes de symétrie, je les ai étudiés avec... dans plusieurs de certaines de mes pièces, mais ici, par exemple, j'ai étudié, si vous avez une note centrale et vous avez des sons qui sont en bas et des sons qui sont en haut, on peut faire en sorte que les sons qui sont en bas et en haut se situent à égale distance de ce pivot central, c'est-à-dire que les intervalles sont les mêmes. Donc c'est comme si vous avez un miroir, au lieu d'être vertical, il est horizontal, et ce que vous avez en haut, vous le retrouvez en bas exactement. Pardon. Ce qui est intéressant, c'est que des fois, on déplace. Donc, on a un espace général dans lequel se trouvent tous les sons. Ça, ce sont les hauteurs, ici. On déplace le centre en haut, c'est-à-dire qu'on le décentre. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça m'est arrivé souvent, c'est que quand j'avais ce groupe-là, ben, je voulais faire le symétrique, mais j'avais plus de notes dans le piano. Quoi. J'étais arrivé au bout des touches, et donc je ne peux pas aller plus haut. Et dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je fais un phénomène de repli, c'est-à-dire que je reprends, si j'ai ici j'ai 10 pas, par exemple, à trouver, en descendant, j'en ai pas 10 en haut, eh bien, je repars du bas, et je complète. Et comme ça, on crée des symétries qui sont transformées. Et j'ai fait ça dans une pièce qui s'appelle Pasakai pro Tokyo, dans laquelle on a cette note qui est symétrique tout le temps, au début, et on a ce motif qui va... autour de cette note régulière. Alors, j'ai construit, voilà, donc on a ici ce niveau symétrique, vous avez cette note au milieu, cet axe au milieu, et vous voyez que tout ce qui est en haut, en bas, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, ça se trouve de manière équidistante. Ce que j'ai fait, c'est que ensuite, je reprends cette note, donc la première note que j'ai obtenue par ce système-là, et elle devient un centre d'un nouvel axe de symétrie. Évidemment, si ce centre est dans le grave, je n'aurai pas assez de notes dans le grave, donc je vais avoir des symétries dans l'aigu, c'est-à-dire que ça va faire un repli dans l'aigu. Et comme ça, je développe et je prends chacune de ces notes comme un nouveau centre, et ça me crée... Alors, c'est vraiment une forme fractale, parce que je reproduis exactement le même dessin général, à l'intérieur de chacune de ces petites, et vous voyez que tout l'espace, petit à petit, se remplit ici. Donc, on a, voilà, là c'est un cas où il y a un motif, vraiment, un dessin, qui est toujours le même, mais qu'on retrouve à différents niveaux, différents endroits, mais ce motif va être soumis à des forces asymétriques, à changer de symétrie, parce que s'il se trouve dans une région aiguë, il va buter contre une impossibilité qui est qu'il n'y a plus d'espace sonore au bout d'une certaine chose, une certaine limite. On va faire une petite transformation. On va passer je vais vous donner un autre exemple. Donc, il faut qu'on débranche quelque chose. Je vais vous donner un autre exemple que je vais vous faire tourner là en réel sur un autre ordinateur, et qui est un exemple qui est tiré d'une de mes pièces qui s'appelle le temps mode d'emploi, qui est une pièce pour piano et électronique qu'on va jouer ici d'ailleurs le 16 juin dans un concert, et qui est une œuvre dans laquelle j'utilise un procédé de génération automatique pour faire des formes qui se continuent les unes des autres. Je pense que ça tourne toujours. Voilà. Alors, ce qu'on entend ici, voilà, ce qu'on entend ici, c'est un système qui s'appelle l'échelle de Markov. C'est-à-dire, ce que vous entendez ici, c'est calculé et c'est composé, je dirais, c'est créé au moment où vous l'entendez. C'est pas quelque chose qui a été préparé, c'est quelque chose qui se calcule au moment où vous l'entendez. Et c'est un procédé sur lequel je reviendrai dans les cours suivants, que j'utilise souvent, qui s'appelle le procédé des chaînes de Markov, du nom d'un mathématicien russe qui l'avait inventé, mais qui ne sert pas qu'à la musique, qui sert à beaucoup d'autres choses, qui permet d'engendrer des formes, c'est-à-dire que ça trouve... On calcule les probabilités d'une note pour aller à la suivante. C'est-à-dire qu'on a plusieurs notes sur une échelle et on décide que telle note a plusieurs probabilités pour rejoindre d'autres notes. Et donc, avec ces probabilités, on crée des motifs qui sont dominants. C'est-à-dire que si de la note A, j'ai 90% de chances d'aller à la note C, eh bien, finalement, cette forme, ce motif-là va être dominant parce qu'il va venir beaucoup plus souvent. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il va être unique. C'est-à-dire qu'il y aura tout un tas de variations. Et donc, ça tourne de cette manière. Et c'est autogénératif, c'est-à-dire que ça continue à tourner. Ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'à partir du même code, je dirais, alors je ne vais pas parler de génétique, ce n'est pas de la génétique, mais à partir du même code, c'est-à-dire à partir de la même règle, la même règle d'engendrement de cette forme-là, je vais créer des formes totalement différentes en modifiant certains paramètres parce qu'il y a une grande différence. Alors ça me permet de revenir sur une différence importante entre forme et structure. Alors ça a souvent été évoqué par des gens plus savants que moi, mais j'aimerais juste le respécifier. Quand on parle de structure, même en musique, on va parler d'un ensemble de relations, c'est-à-dire des éléments qui ont des relations ou de successivité, ou des relations d'intervalle, ou des relations de complémentarité entre un événement et un autre. Ce qui ne veut pas dire qu'elles vont avoir une forme particulière, parce que pour avoir une forme particulière, pour acquérir une forme, un élément musical doit posséder énormément d'attributs. Ce n'est pas juste la hauteur, ça peut être le timbre, ça peut être la durée, ça peut être le rythme, ça peut être l'intensité, ça peut être le profil, enfin, ça peut être les modes de jeu, il peut y avoir énormément de choses qui vont participer à imprimer une forme et à donner une forme. Et la forme, ça va être la réunion de tout ça dans une perception plus ou moins synthétique, qui va faire que les différents éléments vont en former un seul pour donner une expression. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, donc je vais faire cette petite démonstration, je vais vous montrer comment on peut, justement à partir d'une chose qui se déroule toujours de la même manière, puisque l'algorithme est le même, c'est cette génération markovienne qui va se dérouler, je vais petit à petit arriver à transformer cette texture continue, qui est une espèce de grande toccata, en une forme pointilliste. Et vous allez voir qu'à la fin, je vais obtenir des points dans l'espace qui n'auront rien à voir avec le motif de départ, mais vous allez voir que vous allez comprendre la manière dont ça va se transformer, et ça va vous donner peut-être une petite idée sur la manière dont on compose avec ces machines. Donc voici un état de la matière. Un peu plus fort. Donc on a quelque chose qui tourne tout le temps. Et je vais transposer maintenant cette forme-là petit à petit dans le grave. C'est toujours la même chose, mais je l'ai petit à petit transposé dans le grave, mais ça n'arrête pas de s'auto-générer au fur et à mesure. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'ambitus, c'est-à-dire là, elle est dans un petit ambitus, et je vais changer l'ambitus, c'est-à-dire qu'on va toujours avoir la même forme qui va continuer, mais ça va être dans un espace un peu plus large. Et maintenant, je vais lui donner un peu plus d'aspérité, c'est-à-dire que cette forme qui se déroule de manière un peu automatique, je vais lui imprimer des accents, c'est-à-dire que les notes ne seront pas aussi égales, mais elle va avoir une surface un peu plus hérissée, et vous allez voir qu'elle va changer un peu de contenu. Et maintenant, je vais la placer dans un temps beaucoup plus large. Et là, j'ai comme ce que j'appellerais un écrêtement, c'est-à-dire qu'on a toujours la même chose, mais qui a été distendue, qui a été, mais c'est toujours le même support, si vous voulez, la même chose qui se déroule. Mais vous voyez que la forme a totalement changé, c'est-à-dire qu'on est parti sur cet ostinato très, très rapide, et on arrive à cette musique de points et de tâches que je vais vous faire réécouter maintenant dans la continuité. Alors, puisque j'ai terminé avec cet exemple-là qui montre comme ça des tâches et des points, je crois que c'est une très bonne transition pour passer la parole à Mathieu Langer, qui va nous parler peut-être de la même forme, mais cette fois-ci sur le plumage de certains animaux. Merci beaucoup.